Et oui, vous avez bien reconnu, c'est le dernier indicatif du Festival de Radio France et de Montpellier Occitanie. C'est l'édition 2009, c'est la 35e qui d'ailleurs a terminé depuis, a fermé ses portes. Et nous reparlerons un peu du bilan et de ce que l'on écoutera l'année prochaine. Alors aujourd'hui, eh bien, on va quand même parler du dernier interview que j'ai pu réaliser. Alors normalement, il y en avait un autre, et puis le chef était malade. On est rentré dans sa loge, il y avait la partition, il y avait le pantalon, il y avait les baguettes, et le chef, il avait disparu. On l'a attendu, puis il a dit qu'il avait mal au ventre. Donc finalement, pas de monsieur Roulavi, c'est dommage, j'aurais bien aimé, mais bon, Santo Matias Rouvali était malade. Il a donné deux concerts, le 25 et le 26, et je devais le voir autour du 25, et puis bon, tombé à l'eau, tant pis, on le retrouvera une autre année. Donc, entre-temps, eh bien, j'ai eu la chance de faire parler un ensemble. Cet ensemble, c'est tout simplement un trio, il s'appelle le trio Messian, donc comme le nom du compositeur du même nom, et d'ailleurs, c'est pas par hasard. J'ai eu la chance de rencontrer les trois instrumentistes et nous allons les écouter avec une petite musique au milieu qui est tout simplement eh bien, le quatuor pour la fin de temps d'Olivier Messiaen qu'ils ont enregistré il y a quelque temps et nous écouterons le numéro 2, c'est-à-dire la vocalise pour l'ange. Donc voici le trio Messiaen. Bien, trio Messiaen. Alors dans l'ordre, je vais essayer de vous retrouver. Le violoniste, je regarde celui qui... Voilà, c'est ça, voilà, la veste un peu abîmée. Donc le violoncelliste doit être là, voilà. Et donc vous, c'est le pianiste. C'est vous qui avez donné je ne sais pas combien de concerts pendant le festival, là, cette année.
C'est pas fini,
combien vous en avez donné? Donc vous êtes, pardon, alors Théo Fouchonneret.
Oui, c'est ça. J'ai donné... Ben, en fait, j'ai joué la semaine dernière... donc au quorum et puis un petit peu en agglomération.
Voilà, c'est ça.
Donc je pense que ça va faire en total 5 concerts.
Très bien. Et puis alors, en tant que trio, vous en avez fait 2, c'est ça?
3.
Ah, ouais. J'en ai loupé un.
Il y en a un ce soir encore.
Justement, il y en a eu un hier.
Il y en a eu hier soir. Ouais.
D'accord. Et chaque fois, le programme Mendelssohn, alors vous allez nous dire qui est
Franck Kraftik.
Oui, voilà, on en parlera. Dvorak, on connaît. Alors d'abord. Trio Messiaen, donc créé en 2014. Qu'est-ce que vous faisiez avant 2014?
Alors en fait, finalement, c'est un peu une date fictive parce que ça fait presque 10 ans qu'on joue ensemble tous les trois et on a beaucoup joué dans diverses formations comme le duo, donc sonate, violon, piano, violon, violoncelle, duo aussi. Vous l'avez beaucoup joué avec Théo aussi en violoncelle, piano. Donc finalement, on a énormément modulé les formations et finalement avec le trio, c'est vrai qu'on a décidé d'approfondir ce répertoire qui est tout de même incroyable.
Mais vous êtes croisé où? Au conservatoire?
Oui.
C'est ça? Auquel?
Le conservatoire supérieur de Paris.
De Paris, CSM, voilà. D'accord. Et vous venez d'où? Tous de Paris ou pas du tout?
Non, on est originaire de...
On est tous originaires de province. Et on a tous des origines... Enfin, d'ailleurs, ça s'entend dans nos noms, en fait. David est tchèque. Ses deux parents sont tchèques.
D'accord.
Il est né à Clermont-Ferrand.
Ah oui, d'accord.
Capitale de l'Auvergne.
Oui, je connais bien.
Et du Saint-Nectaire.
Oui, absolument.
De la Truffade aussi.
Oui.
Et de la Tchéquie aussi pour nous, à cause de David. Moi, je suis hollandais et français. De par mon père, je suis hollandais et ma mère est française.
Oui, Van Keulen, oui.
Je suis né à Besançon, en Franche-Comté.
Oui, d'accord. Donc, et vous? Et
moi, je suis niçois, mais pas d'origine hors France, à ce que je sache.
Oui, Fouchonneret, ça ne fait pas français?
C'est français.
Si, c'est tout à fait français.
Oui. Ouais, c'est pas commun, mais c'est français.
Parce qu'il y a deux étrangers, un français.
Ça.
Donc vous êtes rencontré au Conservatoire de Paris et de suite ça a fonctionné ou vous avez fait... Bon, vous avez dit que vous avez fait plusieurs essais.
On s'est même rencontré à l'internat pour mineurs. On était voisins avec David.
Ah d'accord.
Et on s'est rencontré en fait, le gymnase, il se trouve qu'il est juste au-dessus de l'internat pour mineurs. Et on allait jouer au foot et Théo nous a... Enfin, on a aperçu Théo là-bas, on a joué au foot et... On s'est bien entendu humainement et on s'est dit pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de faire la musique et puis voilà, puis c'est parti d'un foot en fait.
D'accord, c'est très bien. Et puis donc j'ai vu que vous avez eu un certain nombre de grands prix d'interprétation ici là, j'ai noté, ici là, c'est pas gentil, concours de musique de chambre de Lyon, la fondation Bouloukian, je connais pas, Boulbenkian, je connais, mais Bouloukian, je connais pas.
C'était dans le concours de Lyon, en fait, on a eu beaucoup, on a eu plusieurs prix au même concours. Voilà, c'est
un arménien.
Voilà, c'est ça, c'est une fondation qui sponsorise spécialement l'art à Lyon, en fait, et beaucoup d'art contemporain aussi. Donc voilà, c'est qui nous a permis de faire une vidéo avec ce prix-là. Puis voilà, d'autres concours aussi internationaux, solistiques aussi.
Un soliste aussi.
Voilà, donc concours de Milan, concours de Genève, aussi concours Eiffel en Lituanie.
Donc quand on passe en trio, ça veut dire que la partie soliste, on la laisse tomber ou... Non, mais pour Chounerie, c'est pas le cas. Mais enfin, bon, on oublie un peu la partie soliste ou pas trop?
Ouais, ça va de mise ensemble. Et puis, parce que c'est vrai que la partie de trio, c'est déjà une formation très solistique de par le fait qu'il y ait donc trois instruments différents et qui occupent une place vraiment très importante au sein du trio. Donc évidemment, c'est vrai que ça prend un peu de temps, mais c'est aussi une des richesses en plus qu'on peut avoir en faisant de la musique de chambre et qui peut tout à fait apporter une autre palette au jeu solistique.
D'accord, parce qu'on sait qu'il y a certains trios qui durent longtemps. Hein.
Oui.
On ne va pas en citer un le plus connu, mais bon.
Bien sûr. Oui, il y en a
pas mal d'années.
Pas mal d'années,
oui, qui sont...
Le Beaux-Arts Trio, oui.
Les Beaux-Arts.
C'est à celui-là que je pense, c'est le plus connu.
Oui, c'est l'emblématique.
Ouais. D'accord. Alors, Messiaen, bon, votre premier disque, c'est le Quatuor pour la fin des temps. Pas un trio, c'est pas grave. Mais votre nom vient de là ou tout à fait d'ailleurs?
Oui, ça me dort. J'écoute. Alors, en fait, la petite histoire, c'est que au début, donc on a joué en sonate, en duo, tout ça, et on a rencontré un clarinettiste qui s'appelle Raphaël Sever, que vous connaissez
absolument.
Lui, on n'a pas joué au foot avec lui, mais on a joué directement de la musique ensemble et il se trouve qu'on s'est très bien entendu. Et la formation emblématique la pièce emblématique de cette formation, c'est le Quatuor pour la fin du temps, bien sûr. Et donc on, tout simplement, en fait, on a choisi de s'appeler comme ça. Et puis on adore Messiaen, on adore toute sa musique. En fait, on a gagné le concours de Lyon et il a fallu qu'on change de nom. Alors ça, je ne sais pas s'il faut le mettre dans la...
Bon, alors on va voir la deuxième. Donc, qu'est-ce qu'il faut le dire?
Qu'est-ce qu'il faut le dire? Non, mais il y a eu, voilà. Pour le répertoire, on voulait approfondir le répertoire trio. Et donc finalement, on a décidé finalement de s'appeler le trio Messiaen avec Raphaël Sever, notamment pour ce premier disque. Parce que finalement, c'est vrai que c'est presque plus naturel que de s'appeler ensemble, parce que l'ensemble, il y avait certaines restrictions de programme, et puis ensemble, c'est très vague. Ça peut être un ensemble baroque, ça peut être un ensemble à 30 musiciens. Donc il y avait un problème de définition finalement avec cette appellation.
Donc on vous appelle
Trio Messiaen.
Oui, d'accord. Oui. Mais alors dans votre CD, chez Mirard, il y a aussi du Hadès, Thomas Hadès. Ça, c'est un sacré compositeur celui-là aussi. Vous l'avez trouvé comment lui?
C'est pas difficile de le trouver. On connaissait un peu ses opéras.
Ouais.
Et puis on a eu vent justement de ses pièces pour dans la même formation que le Quatuor pour la fin du temps. Du coup, ça nous a énormément intéressé. Puis c'est vraiment un compositeur, un immense compositeur du 21e siècle, je trouve.
Et ça demande un travail particulier de jouer du Hadès?
Oui.
Oui,
bien sûr.
Par rapport au Messiaen, je veux dire, qui est peut-être plus, entre guillemets, plus classique.
Oui, l'univers est très différent, ça c'est sûr, évidemment. Après, c'est vrai que souvent on se dit qu'on peut aborder la musique contemporaine différemment, mais finalement non, ça reste toujours la musique. Et puis, en fonction de chaque compositeur, de toute façon, il va y avoir une patte et une personnalité à trouver.
Et pour Hadès, vous avez la chance de le rencontrer ou pas du tout?
Non. Il est trop occupé. Il a des colons par-dessus la tête.
Comment il est?
C'est prévu pour l'année prochaine.
D'accord. Thank you.
Messia, vous n'avez pas dû le rencontrer, je suppose.
Mais si on en
Pardon, ce n'est pas prévu, malheureusement.
Oui, il n'est pas prévu, voilà, c'est ça. Et alors, quand on regarde ce que vous jouez aujourd'hui, donc Mendelssohn, Dvorak, et puis en bis, vous avez fait un forêt, vous passez aussi dans le trio, j'ai envie de dire, plus classique, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Ouais. Alors ça demande quoi là aussi, un travail particulier ou...
Bah c'est le, disons que c'est le répertoire ce pour quoi on fait du trio aussi. Ça veut dire que ça nous nourrit énormément de travailler. C'est des chefs-d'œuvre quoi. Donc pour nous c'est important de passer par là et de défendre cette musique.
Et chaque fois que vous mettez un nouveau trio au répertoire, ça vous prend beaucoup de temps de travail ou vous en avez déjà fait beaucoup?
On en a fait quelques-uns, c'est sûr, mais finalement, bon, le fait de le monter rapidement, c'est pas ce qui prend le plus de temps, mais c'est finalement d'avoir un vécu avec les œuvres qui prend du temps et qui est interminable en fait, finalement, parce que c'est un travail voilà de toute une vie pratiquement, et c'est ça qui est incroyable de vivre avec des trios, enfin avec ces...
Oui, c'est ce qui a marqué là sur le programme, un signe particulier dans un groupe de musique de chambre. On comprend bien vite que la tolérance est primordiale, surtout quand il faut supporter les gonflements du voisin. Ah, oui. Vous parliez de qui? Ah ben oui, je le lis là, hein. C'est dans le programme. Alors peut-être que tout le monde ne retourne pas le programme, mais bon, je me suis dit, tiens. Alors c'est le renflement du voisin, musicien ou du spectateur?
C'est le renflement dont il s'agit.
Donc toi, t'es pas dérangé par qui que ce soit?
Non, je suis très tolérant.
Oui, alors la tolérance, c'est quoi? Il y en a un qui, entre guillemets, est artiste. C'est lui, qui l'artistique passe par lui, ou c'est une grosse discussion entre vous?
Non, c'est justement, évidemment, quand par exemple un musicien a pu jouer une œuvre, évidemment, il va pouvoir faire bénéficier son expérience avec les autres musiciens. Mais finalement, c'est une grande discussion et un grand travail à trois, finalement. C'est là où se forme finalement une œuvre personnelle d'un trio. C'est sûr.
D'accord. Et ça vous occupe combien de temps un trio comme ça? Je veux dire, monter une œuvre, faire des tournées ou du moins des concerts, c'est la moitié du temps
Un peu, presque la moitié, oui, presque la moitié. Presque la moitié. C'est sûr qu'il y a cette année et l'année prochaine beaucoup de concerts en trio avec des très belles salles, là, justement comme tout à l'heure, ou encore le Vidmore Hall à Londres en 2021. Ah oui, mince, il faut pas l'annoncer.
On n'a pas entendu.
Pardon. Non, c'est pas encore, parce que sinon les Anglais sont terribles. La folle nuit du trio à Philharmonie. Ça, c'est en novembre prochain. Philharmonie de Paris. C'est une belle salle. Et puis le théâtre des Bouffes du Nord aussi, qui est une très belle salle dans le 18e arrondissement à Paris, et où il y a un programme avec la Belle Saison, donc cet organisme assez génial qui nous permet de jouer presque une dizaine de fois le même programme avec une équipe de musiciens dont le trio est le noyau en fait. Trio,
d'accord.
Donc voilà, on va jouer une quintette de Franck, les romances de Shostakovich avec soprano, avec Marion Tassou qui est venue ici plusieurs fois, et voilà, Alexandre Pascal au deuxième violon, et à l'alto Juan Miguel Hernandez qui était dans le Quatuor Fine Arts.
D'accord. Juste, qui est ce compositeur dont j'ai pas pu prononcer le nom tout à l'heure?
Franck Kraftchik. Alors, on l'a rencontré.
Il est un peu tchèque, lui, non?
Il est polonais. Ouais. Et alors, on l'a rencontré lors du concours de Lyon en 2018. Et c'était la pièce imposée pour le concours.
D'accord.
On a joué au deuxième tour. Troisième tour, pardon.
Qui est dédié d'ailleurs.
Qui est dédié à Chronopios. Ouais. Et donc voilà, pour la petite histoire, on a eu le prix de la pièce contemporaine. Je sais pas si
c'est une pièce assez courte, hein, d'une dizaine de minutes.
Oui, minutes, ouais. C'est en un mouvement. Et apparemment, on a eu vent que. Il y aurait peut-être
il a le droit de le dire.
Des autres mouvements.
Oui,
un deuxième mouvement en préparation, voilà. Et peut-être un troisième, et même peut-être un quatrième.
Oh là là, ça va faire 40 minutes, ça va faire un gros morceau.
Ouais.
Donc la musique contemporaine, ça fait partie intégralement de votre répertoire, ou c'est, bon, le premier disque qu'on a vu, il n'y a que ça, on dira, mais ça fait vraiment partie de votre répertoire, ou c'est quelque chose, alors que certains qualifient d'obligatoire, on est obligé d'y passer, ou vous sentez quelque chose de plus là?
J'ai l'impression que c'est aussi, on s'est un peu rencontrés aussi via ce répertoire. C'est-à-dire on est absolument fanatique du XXe siècle, tout, je pense, et du coup, ça nous a vraiment poussé vers une direction, voilà, qui a été la musique moderne. Et voilà, nous, on adore défendre ça.
D'accord. Mais alors que ce soit aussi de la musique minimaliste ou pas,
ce qui nous plaît, quoi. Il faut qu'on écoute, faut qu'on accroche. Et puis après,
ça. C'est ça qui est incroyable dans la musique du XXe siècle, il y a un tel éclatement des styles et des façons d'écrire et de composer. Donc bon, c'est vrai, bon, on est tous comme réunis autour de certains compositeurs phares du XXe, donc Messiaen, Debussy, Bartok, Janáček aussi, Berg, Ligeti, donc bon, évidemment les immenses piliers du XXe siècle.
D'accord. Les prochains enregistrements qui vont sortir, s'il y en a déjà en boîte?
Pas ça en projet, on va voir, on n'est pas encore. Il y a un certain anniversaire l'année prochaine.
Oui.
Voilà, c'est un indice.
Oui, j'en dirais pas plus. Sinon, il n'y en a pas d'autres. Et les prochains concerts, alors?
Les prochains concerts, bah, moi, je finis demain à Montpellier.
Ouf. Voilà. Il fait un peu chaud, là, vous avez eu la chance. Hein. Mais il fait plus chaud ailleurs. Hein.
Oui.
Voilà. Et donc, après les vacances, peut-être
Non, moi, pas avant septembre, pour moi, personnellement. Mais après, on va se revoir...
À Genève, on fait le quatuor pour la fin du temps, de Messiaen, justement.
Vous le jouez souvent, finalement?
Quelques fois, oui.
Un peu moins ces dernières années.
Parce que moi, honnêtement, dans les séances de concert, quoi, j'ai entendu trois fois, tout cassé, hein, ça se joue pas très souvent. Les gens ont un peu peur, encore.
Encore un peu, mais bon, nous, enfin, c'est vrai qu'on se bat pour... c'est une œuvre, quand même, en concert qui a un tel impact quand même sur le public.
On n'a jamais vu ça, c'est irremplaçable
finalement.
Ah oui,
c'est vrai que
les gens ont peur, mais une fois qu'ils sont,
oui, ils sont dedans, ils
en ressortent mais bouleversés, quoi, régulièrement. Ça nous arrive des retours comme ça, donc il faut pas... Il y a des compositeurs comme ça qui font peur, c'est
le nom.
Il y a
Messiaen,
Bartok,
faut braver un peu ça,
voilà. Souvent après les gens se disent, mais je savais pas que c'était ça en fait.
Mais même Duschenberg aussi, ça arrive souvent que les gens, pas forcément les œuvres de jeunesse, mais souvent des fois on a un côté immédiat qui saute pas aux yeux.
Bien sûr.
Bon, mais on vous souhaite bon vent.
Merci beaucoup.
Merci à vous. Voilà, vous venez donc d'écouter le trio Messiaen, trois jeunes hommes toniques et dynamiques, difficiles à maîtriser mais ô combien sympathiques, donc qui donnaient un certain nombre de concerts pendant le festival de Radio France Montpellier-Occitanie. Et vous avez entendu au milieu, eh bien, le quatuor pour la fin des temps de Messiaen lui-même. Alors avant de terminer, on va faire juste un petit bilan rapide de l'édition 2019. Tel qu'il nous a été communiqué par le dossier de presse, donc il y a eu 101 400 spectateurs, donc pour 153 concerts, donc une augmentation de 9% par rapport à l'année dernière. Bon, bravo, très bien. Et il y a eu 113 événements gratuits, ce qui fait à peu près 75%. Si on regarde le budget est de 3,6 millions d'euros, 63% c'est la région Occitanie, et 1,4 million à peu près pour dépenses artistiques. Voilà. Alors que dire, que l'année prochaine, l'équipe, hein, donc vous avez le directeur Jean-Pierre Rousseau, pour la musique classique c'est Corinne Delafosse, pour le jazz c'est Pascal Rozza, et pour tout UBOU c'est Pascal Morin. En tout il y a 127 personnes, dont 11 permanents ou assumés, assimilés, et il faut rajouter les équipes de Radio France, 35 personnes, le Corum, 35 personnes, et les équipes du Domaine d'eau, 14 personnes, ce qui globalement n'est pas imputé dans le budget. Voilà. Alors que dire, que l'année prochaine il y aura une 36e émission telle qu'elle est annoncée. Elle se réalisera du 10 au 30 juillet, donc a priori plus longue que cette année. Elle célébrera les rivages de la Méditerranée ainsi que le 250 ans de la naissance de Ludwig van. Voilà, ceci termine notre émission. Juste pour finir et pas vous laisser comme ça, d'abord je remercie Stéphane à la technique qui chaque fois a fait un très très beau boulot pour arriver à mettre tout en place. Alors je ne vais pas vous dire quels étaient les meilleurs concerts ni les plus mauvais, sûrement pas. Mais par contre, je vais juste vous dire qu'il y a au moins deux concerts qui étaient liés à l'orchestre de Montpellier, l'orchestre national Montpellier-Occitanie. Le premier, c'était le vendredi 12 juillet. Avec Christian Jarvi, on a eu du Rotawara, ce qu'on écoute là derrière moi, et surtout l'Oiseau de Feu de Stravinsky. Nous allons l'écouter en extrait. Et ensuite, il y a eu un deuxième grand moment, c'était donc le mardi 24 juillet, avec ce fameux Ferval de Dendy, où M. Michael Schoenwand, que nous avions eu à cette occasion, nous a fait quelque chose d'absolument extraordinaire avec Michael Speyrest, le ténor. C'était grandiose.
Donc nous allons écouter pour terminer un extrait des L'Oiseau de Feu de Stravinsky. Alors j'ai pas trouvé un enregistrement de Christian Järvi, mais j'en ai trouvé un du papa, Nem. Donc nous allons écouter le London Symphony Orchestra, c'est la danse infernale, c'est Nem Järvi. Et c'est un enregistrement qui commence à dater, mais qui remue les foules. Voilà, je vous remercie, je vous dis à la prochaine saison, au prochain festival, et puis bonnes vacances. Thank you.